Atlantique Mobile, l'appli de Banque Atlantique, intuitive et performante, vous propose appel sur l'actualité.
Banque Atlantique, grandir ensemble.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Merci d'être avec nous. Bienvenue si vous nous rejoignez. Dans 30 minutes, vos réactions sur la reconfiguration du dispositif militaire français sur le continent africain. La France expulsée du Mali, du Burkina Faso, du Niger. La France qui a dû se retirer le mois dernier du Tchad. Eh bien, ce matin, la France restitue sa base militaire de Port-Boué aux forces armées de Côte d'Ivoire où quelques 1000 soldats étaient déployés, notamment dans le cadre de la lutte contre les djihadistes au Sahel. Une reconfiguration qui va d'ailleurs se poursuivre puisque d'ici à la fin de l'année, les 300 militaires français encore présents au Sénégal devront quitter le pays. Alors que vous inspire cette évolution du dispositif militaire français en Afrique? On en parle ce matin. Vos réactions, elles sont nombreuses. En tout cas, le sujet vous intéresse. 33 9 693 693 70 et vos commentaires comme tous les matins sur nos réseaux sociaux Facebook et WhatsApp. Mais d'abord, vos questions à la rédaction pour mieux comprendre l'actualité. On va commencer avec Kassoum qui nous suit sur les réseaux sociaux à Bamako, Mali. Bonjour Kassoum.
Bonjour Juan, bonjour à tous les auditeurs de la RFI.
Et bienvenue sur notre antenne. Vous souhaitez que l'on revienne sur l'élection samedi du président de la Commission de l'Union africaine?
Oui, bien sûr Juan. J'ai deux questions à ce sujet. Oui. La première, c'est de savoir pourquoi le président Kenya William Ruto est-il accusé d'être responsable de la défaite de Raila Odinga à la présidente de la commission de l'UA.
Oui, Raila Odinga, l'opposant historique kényan qui a effectivement perdu face au ministre des Affaires étrangères djiboutien Mahmoud Ali Youssouf. Bonjour Gaël Lalex.
Bonjour.
Correspondante permanente de RFI à Nairobi, expliquez-nous, Gaëlle, pourquoi des voix s'élèvent pour affirmer que le président Ruto a saboté la candidature de Raila Odinga.
Oui, alors saboter, hein, c'est peut-être un grand mot, Juan, mais il est vrai que les observateurs ici estiment que William Ruto a plus mis des bâtons dans les roues de son candidat qu'il ne lui a permis de réussir. D'abord, parce que l'entente de circonstances entre les deux hommes n'a dupé personne. William Ruto et Raila Odinga se sont disputés la dernière élection présidentielle dans un mouchoir de poche et la contestation post-électorale a été violente. La candidature de Raila Odinga à l'Union africaine est intervenue opportunément quelques semaines après des manifestations anti-gouvernementale d'envergure en juin dernier. Et pour beaucoup, William Ruto se débarrassait ainsi de son principal opposant après avoir été lui-même très fragilisé dans la rue.
Oui, d'ailleurs, le porte-parole de Mahamadou Ali Youssouf, hein, le nouveau président de la commission, l'a clairement expliqué, hein, après l'élection. 33 chefs d'État ont refusé d'être otages de la politique intérieure kényane. Voilà ce qu'a écrit donc le porte-parole du nouveau président de la commission sur le réseau social X. Ce qu'il faut dire, Gaël Lalex, c'est que la diplomatie de William Ruto n'a pas non plus joué en faveur de Raila Odinga.
Non, parce que sur de nombreux dossiers, William Ruto a pris des positions très clivantes. C'est le cas notamment sur le Soudan. Sa proximité avec le général Emeti, commandant des forces de soutien rapide, dérange. Et d'ailleurs, l'histoire aura donné raison à ses critiques, puisque est prévue cette semaine à Nairobi, demain très exactement, la création d'un gouvernement parallèle pour les territoires sous domination des FSR. Et puis bien sûr, il y a le conflit dans l'est de la RDC. Le processus de paix de Nairobi a fait chou blanc. Kinshasa soupçonne William Ruto d'avoir pris le parti du Rwanda et l'entourage de l'ancien président Uhuru Kenyatta qui assure la médiation accuse aussi William Ruto de lui avoir savonné la planche en refusant notamment de financer cette médiation. Enfin, Juan, William Ruto est aussi perçu comme trop proche des intérêts occidentaux. Avec une certaine maladresse, il n'hésite pas à afficher ses relations étroites avec les États-Unis ou même la France. Au lendemain de l'attaque de Goma, il communiquait sur ses entretiens avec Emmanuel Macron ou Marco Rubio, le secrétaire d'État américain. Au sein de l'UA, donc, William Ruto n'est pas perçu comme un leader panafricaniste.
Oui, Kassoum, je vous ai coupé la parole. Vous aviez une deuxième question, je crois.
Oui, la deuxième, c'est de savoir si cette défaite d'Odinga peut avoir des conséquences politiques pour le président Ruto.
Gaël Lalex, à Nairobi.
Et bien, juste après sa défaite, Raila Odinga a dit qu'il se réjouissait de rentrer au pays et qu'il avait du pain sur la planche. Il est toujours à la tête du mouvement démocratique orange, l'une des principales forces d'opposition ici, mais son rapprochement avec William Ruto lui a causé beaucoup de tort. Après les manifestations de juin, qui ont été réprimées dans le sang quand même, il faut le rappeler, plus de 80 morts, Raila Odinga a accepté que son parti intègre un gouvernement d'union nationale, ce qui a d'une part provoqué l'explosion de la coalition d'opposition à laquelle appartenait son mouvement et d'autre part, surtout, son attitude passive durant ses protestations a totalement décrédibilisé Raila Odinga aux yeux de la jeunesse. Aujourd'hui, Baba n'apparaît plus comme le grand opposant qu'il était.
Merci infiniment. Gaëlle, Alex, on vous libère. Vous êtes en pleine conférence de presse. On vous suivra bien évidemment dans le courant de la journée. Kassoum, bonne journée à Bamako.
Merci bien à vous également.
Et continuez à nous suivre sur les réseaux sociaux. Merci infiniment de votre confiance. Il est 9h16 ici à Paris. Ce sont vos questions pour mieux comprendre l'actualité. Hamat, soyez le bienvenu. Bonjour.
Bonjour Juan. Bonjour à tous les auditeurs de la RFI.
Vous nous écoutez à Mao, au Tchad.
Effectivement, je vous suis depuis Mao.
Merci de votre fidélité. Quelles sont vos questions ?
Bon, Juan, ma question, une préoccupation par rapport à la question de l'Ukraine. Les Russes et les Américains se sont réunis en Arabie Saoudite pour discuter de la guerre en Ukraine. Oui. Pourquoi cette rencontre s'est-elle tenue à Riyad ? Quels sont les intérêts de l'Arabie Saoudite dans cette médiation ?
Oui, la scène s'est déroulée mardi. On y a vu le secrétaire d'État américain aux côtés du ministre russe des Affaires étrangères. C'était d'ailleurs la première fois depuis l'invasion de l'Ukraine que des pourparlers russo-américains de ce niveau avaient lieu. Bonjour David Rigoulet-Rose.
Bonjour.
Chercheur associé à l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques. Vous êtes le rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique. Pourquoi l'Arabie Saoudite a-t-elle accueilli cette rencontre ?
C'est pas la première fois que l'Arabie Saoudite accueille des rencontres de ce type, hein. Même si évidemment avec l'actualité récente, ça prend une dimension particulière. Mohamed bin Salman, en fait, depuis 2 ou 3 ans, a l'ambition de se présenter comme un go-between, un facilitateur, et il propose sa médiation. Et il l'a déjà fait d'ailleurs à propos de l'Ukraine, hein, puisque il était intervenu en septembre 2022 pour la libération de prisonniers de guerre. Mmh. Il avait reçu le président Zelensky le 19 mai 2023, alors qu'il était en transit pour le sommet du G7 au Japon. Il y a eu une réunion en août 2023, justement, d'une quarantaine de pays sur la question de l'Ukraine, et il avait de nouveau reçu le président Zelensky à 2 reprises en 2024.
Oui, alors je vous écoute attentivement, David Rigoulet-Rose. Il entretient donc de bonnes relations avec l'Ukraine, Zelensky, avec la Russie, Vladimir Poutine, et aussi avec Donald Trump. Donc finalement, le prince héritier discute, dialogue, parle avec tout le monde.
Avec tout le monde. Il est dans une logique transactionnelle, hein, sur le mode trumpiste. Et il se trouve qu'il entretient des relations personnelles plutôt bonnes, évidemment, avec Donald Trump, puisque les États-Unis sont l'allié quand même stratégique du royaume. Et puis également avec Vladimir Poutine, parce qu'il est en contact direct avec lui dans le cadre d'un accord énergétique qui s'appelle OPEP+. Et donc, à titre personnel, effectivement, il entretient des logiques transactionnelles diverses et variées, ce qui lui permet de faire l'interface et d'offrir ses bons services, justement, dans le cadre de négociations régionales. On l'a vu avec la question de Gaza, mais au-delà, puisque ça concerne le théâtre, justement, de la guerre en Ukraine.
Et donc, le fait d'entretenir de bonnes relations le place finalement au centre. Qu'a-t-il à gagner ? Que peut gagner l'Arabie Saoudite, justement, dans cette médiation ?
Une forme de prestige, c'est-à-dire c'est la reconnaissance d'un rôle international, puisque le prince Mohammed bin Salman veut faire du royaume un pays majeur au XXIe siècle. Il a des grandes ambitions avec son plan Vision 2030. Il veut que son pays soit reconnu comme une puissance mondiale. Il fait partie du G20 d'ailleurs. Et donc à ce titre-là, il y a une dimension de prestige, évidemment, qui est associée à l'organisation de ce type de rencontre. Et il veut montrer qu'il est redevenu incontournable après, évidemment, le passage difficile difficile liée à l'élimination du journaliste Jamal Khashoggi en 2018.
Effectivement. Merci infiniment de votre expertise, David Rigoulet-Rose, chercheur associé à l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques. Hamat, bonne journée. Amao, merci de nous écouter au Tchad. Et j'en profite d'ailleurs pour saluer tous ceux qui nous écoutent au Tchad. Je sais que vous êtes nombreux, puisqu'à chaque fois qu'on parle de votre pays, vous êtes des dizaines et des dizaines à nous contacter, soit au standard, soit via nos réseaux sociaux. 9h21 à Paris, Valérie Gasse, la chef du service politique de RFI, s'installe. Soyez la bienvenue.
Bonjour Juan, bonjour à tous.
On vous a demandé de venir, on a reçu des questions concernant François Bayrou, le premier ministre français qui est dans la tourmente après les révélations de violences physiques et sexuelles qui auraient été commises dans un collège lycée catholique. Bonjour Chinka.
Oui, bonjour Juan Gomez et bonjour à Valérie Gasse et bonjour à tous les auditeurs de l'émission d'Appel sur l'actualité.
Chinka, qui nous écoute à Niamey, passionné par la politique française. On vous écoute, quelles sont vos questions?
Oui, pourquoi François Bayrou est-il accusé d'avoir fermé les yeux sur les violences, notamment sexuelles, survenues au collège Bétaram?
Alors,
et cette affaire peut-elle provoquer son départ de Matignon?
Ah, son départ. D'autant que le Premier ministre est accusé par une partie de la gauche d'avoir menti l'autre jour, la semaine dernière, dans l'hémicycle, en répondant à des questions de députés. Valérie Gasse, expliquez-nous pourquoi François Bayrou est dans le collimateur de la France Insoumise, notamment.
Oui, bah, tout a commencé, Juan, et bonjour Chinka, à la suite d'un article de Mediapart selon lequel François Bayrou aurait été au courant de ces violences sexuelles dans le collège lycée. C'est donc Notre-Dame de Bétaram, une institution catholique sous contrat dans les Pyrénées-Atlantiques, la région d'origine de François Bayrou, qui est maire de Pau. Et c'est un collège dans lequel d'ailleurs le Premier ministre a scolarisé certains de ses enfants. Une centaine de plaintes ont été déposées assez récemment et font l'objet d'une enquête, mais la première affaire d'agression sexuelle dénoncée date de la fin des années 90. Et il se trouve que François Bayrou était jusqu'à juin 1997 ministre de l'Éducation nationale. Il aurait donc pu être au courant, à ce titre ou à celui de parents d'élèves, de violences qui avaient cours dans l'établissement. Et c'est à ce sujet que François Bayrou a donc été interrogé par un député de la France Insoumise aux questions au gouvernement la semaine dernière. Et par deux fois, le Premier ministre a dit qu'il n'avait été informé de rien concernant ces faits.
Ouais, sauf qu'il y a des témoignages qui contredisent ses propos.
Et en effet, Juan, et ça a jeté le doute sur la sincérité de François Bayrou. Et depuis, il doit se justifier. Alors, il l'a fait en indiquant que lorsqu'il était ministre, aucune plainte pour des violences à caractère sexuel n'avait été déposé, ce qui est vrai, mais il a reconnu qu'il avait eu quand même connaissance de violences physiques, qu'une inspection pédagogique avait été menée, mais n'avait pas mis en cause le fonctionnement de Bétaram. Il s'est donc en quelque sorte dédouané et puis il a rencontré le week-end dernier des victimes qui lui ont raconté les faits et il s'est exprimé très ému à l'issue de cette rencontre pour redire son ignorance et sa stupéfaction. Une communication de crise rendue nécessaire par le caractère pour le moins maladroit de ses premières réponses et le reproche qui lui était fait de ne pas parler de la souffrance des enfants qui avaient subi ces agressions et ces viols. Et puis, mardi dernier, François Bayrou a commencé à l'Assemblée nationale à riposter politiquement en rejetant l'accusation d'inaction sur le gouvernement socialiste qui était en charge après lui quand la première affaire sexuelle a été connue. Une manière de diluer les responsabilités mais aussi de politiser l'affaire.
Ouais, gouvernement socialiste de l'époque qui était donc dirigé par Lionel Jospin. Il a d'ailleurs cité deux ministres de l'époque.
Ségolène Royal,
qui était à l'éducation nationale et Élisabeth Guigou à la justice. Et toutes les deux ont évidemment vivement réagi aux propos de François Bayrou. Chinka nous demandait si cette affaire pouvait provoquer le départ du Premier ministre.
Eh bien, c'est ce que réclame la France Insoumise, qui accuse François Bayrou d'avoir menti devant les députés et qui, à chaque occasion, le questionne et dénonce même une affaire d'État. Et même certains socialistes, comme Olivier Faure, ont évoqué l'hypothèse d'une démission. Ce qui met François Bayrou en difficulté, ce sont donc, comme on l'a dit, ses premières réponses aux questions au gouvernement, où il a nié avoir su quoi que ce soit des violences à Bétaram, ce qui n'était pas exact. Mais sur le fond de l'affaire, bien sûr, François Bayrou n'est absolument pas mis en cause dans ce qui est en train d'émerger de tout ce qui s'est passé dans cette école. Et son entourage dénonce une instrumentalisation politique. Néanmoins, le Premier ministre reste sous pression. De là, ce qu'il démissionne, ça paraît peu probable pour le moment, sauf si d'autres révélations l'y poussaient.
À suivre donc. Chinka, êtes-vous satisfait des explications de Valérie Gasse?
Oui, merci M. Juan Gomez. Nous écoutons toujours RFI ici à Niamey grâce à votre application RFI Pure Radio.
Eh bien, continuez justement, application RFI Pure Radio à consommer sans modération. Voilà. Valérie, bonne journée.
Merci Juan,
et
bonne journée à tous.
Merci à vous d'être venu dans ce studio. 9h25, il nous reste 5 minutes. On a le temps de prendre une dernière question. On va revenir, justement, on en parlait tout à l'heure sur la guerre en Ukraine. Bonjour Ali.
Bonjour Juan Gomez, comment vous allez ?
Très très bien, ravi de dialoguer ce matin avec un auditeur de Cotonou, d'autant que la semaine prochaine on sera à Cotonou. Je vous en dirai plus dans un instant. Ali, vos questions ?
Plusieurs chefs d'État européens seraient prêts à envoyer des troupes de maintien de la paix en Ukraine. Comment cela pourrait s'organiser ? Quel serait leur rôle ?
Eh bien vous savez quoi ? On va poser la question à Gesine Weber, bonjour.
Bonjour.
Experte en sécurité et défense européenne au German Marshall Fund of United States. On se souvient, il y a à peu près un an, jour pour jour, hein, quasiment, le président Macron déclarait, s'agissant de la guerre en Ukraine, que rien ne devait être exclu, y compris l'envoi de troupes au sol. Depuis, silence radio sur cette hypothèse, et voilà que le sujet revient maintenant sur la table. Expliquez-nous pourquoi.
Alors, le sujet vient actuellement sur la table parce qu'évidemment, la
alors, attendez.
Situation militaire...
Excusez-moi, Gesine Weber, on a un petit problème de réseau au téléphone. L'équipe technique va vous rappeler pour essayer d'établir la bonne connexion pour qu'on puisse évidemment écouter vos explications en direct. Ali, vous êtes toujours avec nous ?
Oui, je suis toujours avec vous.
Toujours avec nous. Je vous disais tout à l'heure que j'étais ravi de discuter avec vous puisque vous êtes à Cotonou et ça me donne l'occasion évidemment de rappeler à tous ceux qui nous écoutent à Cotonou, à Porto-Novo, dans les environs de la capitale économique que nous serons donc la semaine prochaine sur place pour plusieurs émissions et notamment une émission en public. Nous l'enregistrerons le jeudi de la semaine prochaine à l'hôtel Azalaï aux alentours de 10h du matin. Donc on vous attend très nombreux, d'autant que c'est un sujet qui vous concerne puisqu'à l'occasion du 35e anniversaire de la Conférence nationale souveraine, nous retracerons ensemble le chemin que votre pays, le Bénin, a parcouru. Conférence nationale qui, rappelons-le, a permis de jeter les bases de la démocratie. Donc on vous attend évidemment nombreux le jeudi prochain à l'hôtel Azalaï à 10h. Gesine Weber, êtes-vous avec nous ?
Oui.
Voilà, on vous entend nettement mieux. Expliquez-nous pourquoi on reparle de la possibilité de déployer des soldats européens en Ukraine.
Alors, le sujet vient actuellement sur la table parce que la situation militaire en Ukraine ne s'est pas du tout améliorée et parce qu'on voit évidemment aussi les négociations entre la Russie et les États-Unis commencer. Oui. Donc, la question se pose, dans quelles mesures les Européens pourraient éventuellement influencer les négociations, mais aussi signaler, surtout auprès des États-Unis, qu'ils sont prêts à s'engager davantage pour l'Ukraine. Je pense que c'est très important qu'on parle des troupes sur le sol, en général, de faire la distinction entre les différents mandats que des telles troupes pourraient avoir. Il pourrait s'agir, par exemple, des troupes de maintien de paix qui, dans ce contexte, seront que déployées après, évidemment, un accord, surtout aussi avec un mandat du Conseil de sécurité des Nations Unies. Mais si on envoyait des troupes avant d'avoir un tel accord, donc, disons, demain, il s'agirait clairement des troupes de combat.
Oui, et visiblement, on ne se dirige pas vers le déploiement de troupes de combat. Les rares pays européens qui sont favorables à cette hypothèse disent oui à des troupes au sol, mais après la signature d'un accord de paix durable.
Oui, ça c'est complètement clair parce que dans les pays européens, il n'y a aucun intérêt de lancer une confrontation militaire directe avec la Russie. Et l'envoi des troupes européens pour soutenir l'Ukraine serait certainement cela.
Ouais. En tout cas, l'idée ne fait pas l'unanimité au sein des 27. On a certes les Britanniques qui disent « allons-y », la France qui dit « bon, il va falloir à un moment donné qu'on se pose sérieusement la question », et puis tous les autres pays, ceux qui hésitent et ceux qui sont clairement contre.
Oui, c'est ça. Donc, vous avez à la fois la France et le Royaume-Uni qui se sont prononcés avec un peu plus de fermeté pour ce propos, mais et aussi, par exemple, le Danemark qui n'exclut pas du tout complètement cette possibilité. Mais néanmoins, il y a certains pays pour qui cette option, même s'il s'agit des troupes de maintien de paix, est complètement exclue, comme par exemple pour l'Allemagne.
Oui, l'Allemagne, la Pologne ou encore la Hongrie. Merci infiniment, Gesine Weber, d'avoir été avec nous. On s'excuse pour les petits problèmes de liaison téléphonique. Ali, bonne journée à Cotonou et j'espère avoir l'occasion de vous rencontrer la semaine prochaine lors de nos émissions en public. Restez